L'heure des informations avec vous, Camille Manière, bonsoir.
Bonsoir à tous. 3 Palestiniens tués dans des affrontements avec la police israélienne. La journée de tous les dangers sur l'esplanade des mosquées a ravivé les tensions de toute une région. Nous ferons le point dès le début de ce journal avec Étienne Monin. Donald Trump qui coupe l'aide militaire américaine aux rebelles syriens. C'est un revirement majeur dans la stratégie de Washington dans le conflit en Syrie. C'est une analyse à suivre de Daniel Hoffman. En France, le Front National se met à la démocratie en interne et ça change pas mal de choses dans le parti d'extrême droite. C'est ce que nous expliquera Christine Moncla. Avec Laure Verneau, nous reviendrons sur cette controverse qu'affronte Marlène Schiappa. La secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes veut que les mères de 3 enfants puissent faire valoir leur expérience en obtenant des CAP pour s'occuper des enfants des autres. À la fin de ce journal, nous évoquerons l'élégance, maître mot de la carrière au cinéma comme au théâtre de Claude Rich. Le comédien est décédé hier soir, il avait 88 ans. À 18h15, du grain à moudre d'été, du grain de sable, Raphaël Bourgoin.
Et oui, on va parler de la plage, Camille Magnard, la plage comme espace social, mais aussi comme objet de notre imaginaire, avec l'historien Christophe Granger, la sociologue Altaïr Després et la romancière Marie Nimier-Sarim.
Nous démarrons donc ce journal par un point sur la situation au Proche-Orient avec ces affrontements, violents affrontements à la mi-journée entre foules palestiniennes et policiers israéliens. On dénombre au moins 3 morts en Cisjordanie et à Jérusalem, d'où tout est donc parti à l'heure de la grande prière musulmane du vendredi. L'étincelle est venue de ces restrictions d'accès maintenues par les autorités d'Israël sur l'esplanade des mosquées. Nous retrouvons en direct de Jérusalem Étienne Monin. Bonsoir Étienne.
Bonsoir.
Après une semaine de très fortes tensions autour du lieu saint, on savait que la situation était explosive. Eh bien, elle a explosé, pas forcément tout de même là où on l'avait imaginé.
Oui, les heurts les plus violents n'ont pas eu lieu près de la vieille ville, mais dans les quartiers palestiniens de Jérusalem-Est. Le dispositif de sécurité a cassé l'effet de masse cherché par les leaders religieux. Il a par contre confiné la plupart des Palestiniens dans leurs quartiers qui sont devenus, après la prière, les lieux des affrontements. D'après la presse palestinienne, les victimes de ces affrontements sont de très jeunes adultes. Les circonstances pour l'un de ces Palestiniens restent à éclaircir. Pour les deux autres, ils auraient été tués par les forces israéliennes, d'après le ministère palestinien de la santé. Les corps des 2 garçons tués à Jérusalem ont été très vite emportés par les familles par crainte d'une confiscation comme ça se fait lors des attaques. L'une des familles a même fait passer le corps au-dessus du mur de l'hôpital dans lequel le jeune Palestinien est décédé. Cette journée ramène les tensions au niveau de l'automne 2015. D'après le Croissant Rouge, près de 200 Palestiniens ont été blessés à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Des affrontements ont eu lieu au barrage principal entre Jérusalem et Ramallah, à Bethléem et entre autres près d'Hébron. La tension s'installe, le climat se dégrade et la situation s'enlise.
Étienne Monin en direct de Jérusalem pour France Culture, merci à vous. La colère des Palestiniens qui s'est aussi propagée en Jordanie voisine. Plus de 8000 personnes manifestaient tout à l'heure dans les rues d'Amman contre donc ces mesures imposées par Israël à Jérusalem-Est. Un rassemblement à l'appel des partis islamistes et partis de gauche jordaniens. Au moins un drapeau israélien a été brûlé et piétiné par la foule. La guerre en Syrie à présent et cette décision américaine qui pourrait bien constituer un tournant majeur. Selon la presse américaine, la CIA et la Maison Blanche ont décidé de stopper leur programme d'aide militaire aux rebelles syriens, un programme qui avait été mis en place par Barack Obama. Son arrêt acte le changement de stratégie des États-Unis en Syrie. C'est ce que nous explique depuis Washington Daniel Hoffman.
C'est la fin d'un des programmes clés du gouvernement américain en Syrie, un programme clandestin mis en place vers 2013 par l'administration Obama et coordonné par la CIA pour armer et entraîner les rebelles syriens. Le but étant de pousser Bachar al-Assad vers la sortie, le budget était lui colossal, près $1 milliard, alors que l'efficacité de cette aide militaire était critiquée. Donald Trump lui-même avait vivement attaqué la politique américaine en Syrie lors de la campagne présidentielle, en soutenant que les armes fournies pourraient tomber aux mains de l'État islamique et être utilisées contre l'armée américaine. Il a donc choisi de mettre un terme à ce programme controversé, mais la date à laquelle la décision a été prise suscite des interrogations, puisqu'elle aurait eu lieu il y a environ un mois, soit seulement quelques jours avant la rencontre entre Trump et Vladimir Poutine au sommet du G20. La Russie, impliquée dans le conflit syrien depuis 2015 et soutien d'Assad, était notoirement opposée au programme d'aide américain. Cela n'a donc pas manqué de raviver les critiques sur les connexions russes de Trump, déjà soupçonnées de collusion avec Moscou. À noter notamment cette réaction du républicain John McCain, président du comité des forces armées au Sénat, qui craint que l'administration ne joue le jeu de Vladimir Poutine et d'y regretter une décision qu'il qualifie de court-termiste et d'irresponsable.
Toujours aux États-Unis, le Pentagone qui se fâche avec son allié pakistanais. La défense américaine annonce qu'elle bloque plusieurs paiements qu'elle devait faire à l'armée pakistanaise. Mesure de rétorsion contre Islamabad, accusé de ne pas lutter assez activement contre le réseau islamiste Haqqani, un réseau lié aux talibans. Les Américains ont dépensé en 15 ans plus de 33 milliards de dollars d'aide militaire au Pakistan. On referme cette page américaine avec ses remous dans l'équipe Trump à la Maison-Blanche. Il y a d'abord eu la démission d'un membre clé de son équipe juridique, l'avocat Mark Corallo. Au cœur de la polémique sur les liens opaques avec la Russie, on apprend à présent que la Maison-Blanche va nommer dans les prochaines heures un nouveau directeur de la communication. La Grèce est-elle en train de voir le bout du tunnel économique? Le Fonds monétaire international, le FMI, a donné son accord de principe hier au versement à Athènes d'un crédit d'€1,6 milliard. Voilà qui vient conforter le plan d'aide européen défini en 2015, mais qui est toujours conditionné par un allègement de la dette grecque. Pour cela, il manque encore le feu vert de Berlin. Ça ne devrait pas empêcher pour autant la Grèce de revenir sur les marchés en lançant une obligation avant la fin du mois. Elle n'en avait pas émis depuis 2014, Jean-Marc Chardon.
Et en effet, un retour qui est rendu possible par la remontée de la réputation de la Grèce. Le pays a fait des efforts pour réduire ses déficits, il a entamé des réformes structurelles, il a taillé dans ses dépenses. Plus présentable donc la Grèce, au sujet de laquelle le FMI prévoit une croissance au-delà de 2% cette année. Ce qui ne veut pas dire qu'elle soit sortie des difficultés, avec une dette considérable, faut-il le rappeler, 315 milliards d'euros. À ce niveau de dette, eh bien, on entretient forcément et toujours des crispations. Entre un FMI qui estime que ce n'est pas soutenable, trop lourd de ses dettes, qui estime que les créanciers européens, notamment, devraient faire un effort pour les réduire, quitte à encaisser des pertes, et les Européens, à commencer par les Allemands, qui rechignent, eux, à le faire, au nom de quoi renoncer à des remboursements. Évidemment, il n'est pas difficile de comprendre que le FMI mesure dans ces conditions chichement toute offre de crédit, sachant que les fonds débloqués serviront finalement plus tard à rembourser des créanciers. Au moins, le fait pour les Grecs de pouvoir de nouveau accéder au marché va-t-il leur permettre de retrouver un peu de marge de manœuvre? Encore faut-il savoir maintenant à quel taux et si les levées de fonds attireront vraiment les investisseurs en nombre.
Jean-Marc Chardon, merci pour ces précisions. Le chiffre est frappant et pour une fois, il émane des autorités vénézuéliennes. Le chiffre de 100 morts depuis le début de la vague de contestation anti-chaviste, il y a plus de 3 mois déjà au Venezuela. La 100e victime, donc, c'est ce jeune homme de 15 ans décédé hier pendant une manifestation de la grève nationale qui avait été lancée par l'opposition au président Nicolas Maduro. Des ateliers thématiques pour débattre de la ligne du parti. Une grande consultation pour demander l'avis des militants, faire remonter les idées de la base avant le congrès de l'an prochain. Vous ne rêvez pas, c'est bien le Front National qui semble gagner par la fièvre de la démocratie participative. Le parti d'extrême droite qui réunit ses cadres en un séminaire de refondation aujourd'hui et demain. Bonsoir Christine Moncla.
Bonsoir Camille.
Le FN qui s'essaye donc à la démocratie interne, c'est du jamais vu en 45 ans d'existence.
Effectivement, vous savez, Marine Le Pen déteste qu'on la présente comme la fille de son père. Et ce qu'elle engage aujourd'hui avec ce séminaire, Jean-Marie Le Pen ne l'aurait effectivement jamais fait, débattre, confronter et puis consulter les adhérents. Et le FN qui sortira de cette refondation aura déjà changé d'apparence, de nom très probablement. Marine Le Pen y est favorable, sachant que les mots Front National et la flamme tricolore ont déjà disparu des affiches depuis 2 ans. Changer de forme aussi, un mouvement de cadre plutôt jeune plaide à l'intérieur pour une organisation plus horizontale avec des outils numérique pour que les dirigeants puissent en effet mieux écouter les remontées du terrain, ce qui a beaucoup manqué à Marine Le Pen pendant sa campagne, révolutionnaire pour ce parti pyramidal, toujours soumis à l'autorité, voire l'autoritarisme du chef. D'ailleurs, des militants ont pris les devants sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Un hashtag FN de demain génère plusieurs milliers d'échanges. Y sont diffusées des contributions estampillées base électorale. On y retrouve le même affrontement politique entre partisans d'une modernisation et défenseurs de l'identité historique du parti. Une initiative numérique qui ne gêne en rien les cadres réunis à Nanterre, voire qui leur permet de relayer tout haut ce qu'ils pensent tout bas. Le débat dedans, dehors, avec tout de même ses limites. Précaution a été prise de ne pas aborder l'autre débat, celui de l'entre-deux-tours. Marine Le Pen est et reste bien encore la présidente du Front National.
Christine Moncla, merci à vous. Une idée à présent qui n'a pas fini d'alimenter la controverse. La secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, vous voudrait que les les femmes qui ont eu plusieurs enfants puissent faire valoir cette expérience et se faire délivrer un CAP Petite Enfance, un diplôme qui permet de travailler dans des crèches par exemple. Bonsoir Laure Verneau.
Bonsoir.
Le dispositif est à l'étude, il veut permettre à des mères en situation de précarité, c'est Marlène Schiappa qui le précise, de trouver plus facilement du travail.
Oui, cette proposition vise à se faire rencontrer l'offre et la demande entre la demande de professionnels de la petite enfance en crèche et l'offre des compétences des jeunes mères, compétences qu'elles peuvent compléter via ce dispositif diplômant. En bref, faire en sorte que ces femmes ne passent pas du congé parental au chômage longue durée. La thématique des modes de garde pendant le travail est chère à Marlène Schiappa. Il y a 10 ans, elle s'est fait connaître par son blog Maman Travail, où elle raconte son quotidien de jeune mère avec des horaires à rallonge à l'agence Havas. Quand les portraits de femmes politiques sont trop souvent ponctués de mentions à leur situation familiale, Marlène Schiappa, elle, se la réapproprie pour en faire une partie intégrante de son engagement politique. Reste que sa décision fait débat. Dans une tribune publiée par l'Obs aujourd'hui, Julie Marty-Pichon, coprésidente de la Fédération nationale des éducateurs de jeunes enfants, explique qu'il ne suffit pas d'avoir des enfants pour s'occuper de ceux des autres. Comprendre, il n'y a pas de corrélation. C'est très stigmatisant, estime-t-elle, envers les femmes et les hommes qui ont acquis ce diplôme. Pour Camille Froide-Vaumettery, professeure de sciences politiques à l'université Champagne-Ardenne, cette corrélation serait de plus enfermante. Le secteur des travails du care, du domaine du soin en anglais, est précaire, peu valorisé socialement et à 80% constitué de femmes. Et ça s'explique par une essentialisation insidieuse mais pourtant bien présente que parce que les femmes font des enfants, elles auraient une prédisposition naturelle pour les soins à la personne, un peu comme si on affirmait que parce qu'on a des grands-parents, on serait doué pour s'occuper des personnes âgées. Marlène Schiappa a toutefois précisé que le diplôme serait validé après une formation puis une évaluation.
Laure Verneau, merci pour ces précisions. Lui est devenu l'une des bêtes noires des gouvernements successifs. Jacques Toubon, du haut de sa fonction de défenseur des droits, qui critique aujourd'hui les lacunes de l'accueil des migrants en France. Il visitait en début d'après-midi le centre d'accueil de La Chapelle, dans le nord de Paris, centre saturé qui laisse des centaines d'hommes dormir à même la rue. Jacques Toubon reproche donc au gouvernement son refus d'ouvrir de nouveaux centres, à Calais en particulier. Bonsoir Antoine Maret.
Bonsoir.
Jacques Toubon n'en est pas à sa première remise en cause des politiques de l'État ces dernières années, sur les violences policières, les contrôles aux faciès, les dérives de l'état d'urgence, des prises de position qui tranchent, franchement Antoine, avec le passé de l'homme politique.
Effectivement, Jacques Toubon qui défend les migrants, qui dénonce les dérives de l'état d'urgence, les contrôles aux faciès ou encore qui soutient la reconnaissance des enfants nés d'une GPA. Les prises de position du défenseur des droits sont très appréciées dans les milieux associatifs et pourtant, souvenons-nous du tollé suscité à gauche par sa nomination il y a 3 ans par François Hollande. Jacques Toubon, cet homme politique de la droite conservatrice, celui qui vote contre le projet de loi abolissant la peine de mort en 81, celui qui l'année suivante s'oppose à la dépénalisation de l'homosexualité, et qui plus tard est un adversaire résolu du Pax. Il a alors cette image de lieutenant très discipliné de Jacques Chirac, peu réputé pour son audace. Et voilà maintenant qu'il surprend les plus progressistes. Alors qui est vraiment Jacques Toubon, le conservateur de droite ou la sentinelle des minorités? L'homme est d'abord pragmatique, il s'est glissé avec habileté dans son uniforme de défenseur de droit et il affirme avoir mis de côté le débat idéologique pour s'inscrire dans une stricte perspective juridique et il semble y prendre goût.
Antoine Marette, lui, avait l'espièglerie de l'enfance dans son regard comme dans son jeu. L'acteur Claude Rich est décédé hier soir. Il avait 88 ans. Une vie sur les planches et sur grand écran, retracée pour nous par Stéphane Capron.
Claude Rich faisait partie de cette génération de comédiens drogués au théâtre. Il ne pouvait pas s'arrêter de fouler les planches. Il a eu la chance de jouer très tôt à la Comédie Française, dans les années 50, pendant ses études au conservatoire. Et pourtant, il n'a été embauché qu'une fois dans la célèbre institution, mais pour un spectacle qui a marqué l'histoire du théâtre. Il interprétait le rôle-titre de Lorenzaccio dans la mise en scène du cinéaste Franco Zeffirelli. C'était en 1976. Claude Rich aura eu comme maître de très grands metteurs en scène, Claude Régis dans les années 60, Roger Planchon et George Wilson dans les années 70. Ces dernières années, il a servi le théâtre d'Antoine Roux pour interpréter des personnages historiques et notamment le cardinal Mazarin dans Le Diable Rouge, un très grand succès. Dans sa dernière pièce, L'Intrus, il était question de la fin de vie. Claude Rich incarnait un savant spécialiste du cerveau qui souffrait d'insomnie. Une pièce pour dédramatiser la mort. L'un des jeunes personnages lui lançait cette réplique « Dans 24 mois, tu seras mort ». Et Claude Rich de répondre avec ce ton nonchalant et si élégant, on dirait un engagement commercial.
Stéphane Capron termine ce journal avec la météo et des pluies en soirée sur l'est du pays, mais aussi sur la Bretagne et la Normandie. Et demain, le week-end qui commence sous le soleil. soleil sur une large partie sud et est de l'Hexagone. Le nord-ouest reste sous la grisaille. Les températures seront comprises demain matin entre 15 degrés à Brest et 28 à Nîmes. Ce journal était réalisé par Jean-François Braun. À 22h, vous retrouverez Benoît Bouscarel.